Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Habemus Papam retentissait il y a un an depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Jorge Mario Bergoglio était élu pape et prenait le nom de François. Nous consacrerons ce magazine à cet événement. À cette occasion, nous entendrons les témoignages de deux cardinaux, les archevêques de Lyon et d'Abuja. Chacun à leur manière, ils nous diront comment ils perçoivent le pape et ce qui a changé depuis un an. Pour célébrer le premier anniversaire de l'élection du pape François sur le trône de pierre, des jeunes catholiques ont mené un marathon de prières dans la journée de mercredi à jeudi à Rome. Reportage dans ce magazine. Depuis un an, le pape fait l'objet de nombreux articles et reportages dans la presse. Parmi tous les ouvrages publiés, celui d'un de nos confrères de la rédaction allemande. Nous y reviendrons avec lui. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Il y a un an donc, était élu Jorge Mario Bergoglio, le premier pape non européen de l'histoire. Originaire d'Argentine, il prenait le nom de François, tout un programme. Depuis, le pape a tracé sa route, s'est rendu au Brésil pour les Journées mondiales de la jeunesse, a rédigé sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium. Il a entrepris une réforme profonde de la curée et des institutions financières du Saint-Siège. Il a mis l'accent sur la miséricorde, invité les catholiques à aller vers les périphéries de la société et exhorté le clergé dans son ensemble à être avant tout au service des autres. Un an après son élection, le pape argentin continue de surprendre et de susciter un véritable engouement planétaire, tant chez les croyants que chez les non-croyants. À l'occasion de ce premier anniversaire, je vous propose donc d'écouter deux cardinaux venus à Rome dernièrement, à l'occasion du dernier conclave. Tout d'abord, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon et primat des Gaules. Il résume en une expression ce que représente pour lui le pape François, Evangelii Gaudium.
Pour moi, ce monsieur s'est très bien résumé dans le titre de son exhortation apostolique. Le pape François, c'est quoi? Eh bien, le pape François, c'est Evangelii Gaudium. C'est la joie de l'évangile, ce bonhomme. Ça suffit. Quand il a choisi ce titre, je me dis, tiens, il a donné un beau titre à toute sa vie. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je vois que dans le monde entier, ce gars-là, c'est la joie de l'évangile, en blanc, sur pied, en chair et en os. Mais les gens sont touchés en Chine, partout. Les chrétiens, il n'est pas chrétien du tout. Et ils ont vu que dans cet homme-là, il y a la joie de l'évangile. C'est pour ça que moi, j'ai été très heureux quand j'ai vu le titre qu'il a choisi. Certainement, c'est pas conscient, bien sûr. Mais il a donné un beau titre à tout son pontificat.
C'est le pasteur, c'est le pape dont le monde avait besoin aujourd'hui.
Bon, ça par hypothèse, mais j'aurais dit ça d'un autre aussi, parce que celui que le bon Dieu nous envoie, c'est celui dont on a besoin. Donc ça, c'est, vous voyez. Mais après, il a ses accents à lui qui sont majeurs. Par exemple, il dit, allez, il faut sortir, quoi. Parce que Jésus, il est sorti le matin, bien avant le jour, il sortait à la face de Dieu. Donc tu vas sortir pour prier, tous les matins. Bon. Ensuite, c'est pour ça que je suis sorti. Donc il sort dans les villages et le semeur est sorti pour semer. Donc s'il vous plaît, sortez, sortez jusque dans les périphéries. Donc on voit que le verbe sortir, qui est profondément évangélique, même trinitaire, si vous voulez, c'est Dieu qui est sorti de la Trinité pour venir chez nous. Ça doit être pour nous le point de départ de notre mission. Et puis après, dans son exhortation apostolique, le titre du chapitre premier, c'est « La transformation missionnaire de l'Église ». Bon, c'est pas mal comme programme. C'est-à-dire, attention, l'Église, t'as toujours un petit peu tendance à devenir patapouf, toujours tendance à faire la sieste. Enfin, vous voyez, ce qui est normal. Il y a une espèce de petite paresse ou habitude. On a toujours fait comme ça. Alors là, il canonne contre ça, il se met en colère. Arrêtez de me dire « on a toujours fait comme ça ». Et on voit qu'il veut bouger l'Église. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas accusateur. Et que tout le monde se dit, ah bah oui, quand même, faudrait que je fasse un petit effort. Tous les baptisés, quel que soit leur stade, ils disent, ouais, je suis quand même un chrétien un peu endormi. Alors moi, je suis le cardinal de Lyon, je me dis, ah bah oui, je suis quand même un peu endormi. Mais je pense que les prêtres aussi, et les laïcs aussi, et tout le monde se dit, si j'étais plus évangélique, si j'étais plus dans la joie de l'évangile, ce serait mieux. Ce serait mieux pour moi, ce serait mieux pour les autres, ce serait mieux pour ma famille, etc. Il y a un moment, je crois que c'est au numéro 5, qu'il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas boire à la source de la joie, quoi? Puisqu'il y a une telle source qui est là en train de jaillir, pourquoi on ne va pas s'y désaltérer tous? Bah, et si vous laissez le genre d'argument irréfutable, tu dis, ah bah oui, monsieur le pape, vous avez raison.
Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, au micro d'Hélène Destombes. Écoutons maintenant le cardinal John Onayekan, l'archevêque d'Abuja, au Nigeria. Il nous parle du changement de style du pape François et de sa joie de voir des problématiques africaines être au cœur des préoccupations du successeur de Pierre.
Il ne s'agit pas de changements substantiels, mais de changements de style qui est aussi très important. Pour moi, c'est un changement bien accueilli, welcome. Ça ne touche pas le fait que le pape est le Saint-Pierre. Il est toujours le Saint-Père. Il est toujours celui qui a l'autorité universelle sur l'Église. Quand vous voyez le fait qu'il est resté toujours à Domus Sanctum Mater, qu'il n'a pas gagné le palais apostolique, c'est seulement un geste, mais c'est un geste qui parle très fort. Et puis, son moyen de parler, qui est très accessible pour les gens. Mais malheureusement, de temps en temps, les gens pourraient le mal interpréter. Et particulièrement quand il prie des phrases ici et là, et commence à commenter. Que je vois que le pape est très attentif. Quand il dit quelque chose qui semble brusque, il a toujours le balance. Mais les gens qui ne voudraient pas entendre parler de balance prennent seulement la partie qui est à leur convenance. Et alors, c'est comme ça que de temps en temps, on entend dans les médias internationaux des déclarations selon laquelle le pape François a décidé maintenant de changer toute l'Église, d'abandonner toute la position stricte de l'Église, etc. Mais ce n'est pas vrai.
Est-ce que, au-delà du style, est-ce qu'il y a quand même d'autres choses qui, pour vous, cardinal, et pour l'Église entière, constituent des changements profonds ?
Profond. Qu'est-ce que c'est qui est profond ? Ce que je note que aussi comme aussi une chose très utile pour le monde aujourd'hui, c'est que le pape a changé l'emphase sur certaines questions. Prendre l'exemple, le problème de l'homosexualité, la position dogmatique morale de l'Église, c'est très important. Les problèmes des avortements, c'est très important, ça ne change pas. Mais il y a des autres problèmes aussi, qui sont très graves, très pressants. Par exemple, la paix dans le monde, la justice internationale, les misères qu'on trouve partout. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Et pour nous, que nous venons des pays pauvres, c'est comme musique dans nos oreilles, que finalement, notre problème à nous, qui sont vraiment le problème de vie et mort, devient frontline dans l'intérêt du pape et de l'Église. Ce n'est pas que l'Église n'a jamais parlé de ces choses-là. On a toujours parlé de justice dans le monde, etc. Mais dans un autre moyen. Peut-être parce que le pape vient de l'Amérique latine, où ils ont eu l'expérience à première main de ces questions problématiques-là.
Le cardinal Onaïekan, au micro de Marie Duhamel. À Rome, à deux pas du Vatican, même déserté par le pape et la plupart des cardinaux de Curie, partis pour les exercices spirituels de Carême, dans les montagnes proches de Rome, les fidèles ont voulu témoigner à leur manière de leur affection pour le pape. Plusieurs jeunes se sont ainsi relayés dans la nuit de mercredi à jeudi, pour un marathon de 24 heures de prière afin de célébrer la première année du pontificat du pape François. L'initiative lancée par l'association des Papa Boys s'est déroulée au centre San Lorenzo, un centre d'accueil pour les jeunes pèlerins du monde entier situé à quelques mètres de la place Saint-Pierre. Notre journaliste Audrey Radondi s'est rendu sur place.
18h, la veillée de prière débute. Une vingtaine de jeunes assistent à la messe. Parmi eux, il y a Cécile. Elle se lève et ouvre la célébration avec un chant. Cette Française, âgée de 23 ans, vit à Rome depuis plus de 2 ans. C'est elle qui coordonne l'accueil des jeunes au centre. Pour elle et ceux qui viennent à San Lorenzo, le 13 mars n'est pas seulement le jour de l'élection du pape François.
Le 13 mars 2013, on fêtait au centre San Lorenzo les 30 ans de la fondation du centre par Jean-Paul II. Donc on a évidemment vu ça comme un petit clin d'œil de la Providence, nous liant de manière particulière au pontificat du pape François. Et en étant situé tout près de la place Saint-Pierre, il nous semblait beau de lui manifester notre soutien par la prière, puisque c'est le moyen le plus concret que l'on ait pour lui apporter notre soutien. Et le pape François lui-même demande très régulièrement à ce que l'on prie pour lui, donc on est heureux en tant que jeune de lui offrir quelques heures.
Offrir ces quelques heures de prière au pape permet aussi à ces jeunes de s'affirmer dans l'Église.
Pour nous, c'est un moyen en tant que jeunes de nous sentir vraiment comme appartenant à l'Église, si vous voulez, comme ayant un rôle au cœur de cette Église. C'est vrai que le fait d'être à Rome nous donne cette proximité particulière avec l'Église et nous fait mesurer l'importance de la prière pour l'Église, pour qu'elle soit guidée par l'Esprit-Saint.
Pour Cécile, cet anniversaire est surtout l'occasion de faire un point sur l'année écoulée.
Donc là, ça fait un an que le pape François nous surprend, nous enseigne, nous édifie, nous apprend à nous laisser guider par l'Esprit-Saint. Et du coup, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà donné à l'Église depuis un an.
Et de cette première année de pontificat, Cécile retient avant tout les appels du pape à trouver la pauvreté et à l'aimer.
J'ai vraiment en tête toutes ces images du pape François qui embrasse des tout-petits, des malades, qui passe du temps avec ceux qui sont un peu les reculés de la société. Et en tant que jeune, en tant qu'étudiante, pour moi, ça a vraiment été une invitation à être attentive autour de moi aux personnes qui ont le plus besoin de cette attention, de ces regards, de ces gestes. Donc je remercie le pape pour cette exigence qu'il nous propose.
L'exigence, l'humilité et la force sont des qualités souvent attribuées au pape François. Cécile n'imaginait pas le soir de son élection qu'il prendrait une telle ampleur.
Quand il est apparu, il avait l'air tout timide. Il est arrivé avec la tête un peu penchée. Et un sourire assez discret. Et puis ses premiers gestes ont été d'une grande humilité lorsqu'il s'est penché vers la foule en demandant l'intercession de tous les fidèles qui étaient place Saint-Pierre. Et puis maintenant, quand on voit sa force et la force avec laquelle il ose dire les choses, il ose nous appeler chacun à nous convertir, à plus d'exigences, c'est amusant, on se laissait surprendre.
Et dans les mois, les années à venir, elle s'attend à d'autres surprises et elle souhaite qu'il continue sur sa lancée.
J'imagine que depuis un an, il a eu un programme quand même bien, bien fatigant. Tous ces bains de foule, c'est quand même un rythme assez incroyable. Donc je lui souhaite de trouver la force de continuer son pontificat avec autant de feu. Je lui souhaite d'avoir toujours autant cette grande liberté de parole que lui permet son attachement au Christ, finalement. Mais je ne me fais pas trop de doutes là-dessus, je lui fais confiance.
Et après une année bien remplie, son programme pour les mois à venir est déjà bien chargé. Le pape François se rendra en Terre Sainte fin mai et en Corée du Sud en août prochain. Et la rentrée sera consacrée à la tenue du synode sur la famille.
Un reportage signé Audrey Radondi. Les messages ont afflué au Vatican pour ce premier anniversaire. Parmi eux, celui du patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Kirill. Cet anniversaire était marqué par de grands espoirs et d'importantes entreprises dans l'Église catholique romaine, a notamment écrit le patriarche Kirill. L'engagement de sa sainteté à rendre plus clair la présence des idéaux de l'Évangile dans la vie de la société contemporaine a déjà porté, selon lui, ses fruits. Concernant les rapports bilatéraux entre les Églises catholiques et orthodoxes, le chef des orthodoxes russes souligne qu'elles se sont développées lors de la dernière année. J'apprécie le haut niveau de compréhension et l'engagement des deux parties pour renforcer la collaboration catholico-orthodoxe, a précisé le patriarche, indiquant parmi les domaines de coopération la défense des opprimés, le service envers son prochain et la défense des valeurs spirituelles chrétiennes. Depuis son élection, les ouvrages, les articles et les reportages sur le pape François ne manquent pas. Parmi ceux-ci, signalons le livre écrit par notre confrère du programme germanophone, Stefan van Kempis, auteur de François, qui est-il? Que pense-t-il? Qu'est-ce qui l'attend? Aux éditions Librairie Éditrice du Vatican. L'ouvrage met en lumière la personnalité du pape François qui s'attarde sur ses priorités et sur les défis actuels. Il met également en lumière certains aspects saillants de ce pontificat, la personnalité même du pape argentin, sa simplicité et son accessibilité, mais aussi son appel à la conversion. Stéphane Van Kempis.
Une conversion de la papauté, une conversion de l'Église aussi. C'est un grand projet qu'il a lancé. Ça se voit surtout dans cette exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Nous dans l'Ouest, et spécialement nous en Allemagne, on a la tendance à le prendre pour quelqu'un d'assez simple, parce qu'il a ses façons ouvertes, il fait des homélies un peu improvisées. Quand on regarde de près, on trouve plein de petites citations qui ne sont pas marquées, comme avec Ratzinger qui disait toujours ça. Là, je vous cite le Père de l'Église. Et on voit que François connaît aussi les docteurs de l'Église, les textes conciliaires. Et donc, il joue avec ça. C'est un jésuite qui cache bien tout ce qu'il sait et aussi tout ce qu'il veut. Et donc, conversion de l'Église, oui. Conversion de la papauté, oui. Une conversion vers la simplicité. Mais il ne montre pas complètement ses cartes. Il est encore en train d'observer, il ne va pas à tâtons, il a des choses dans la tête, mais on ne sait pas quoi.
Le pasteur, mais aussi le jésuite, avec entre guillemets un cahier des charges bien précis, une mission bien précise.
Oui, il faut vraiment pas oublier que c'est un jésuite, le premier pape jésuite de l'histoire. C'est pas par hasard. Il est aussi intelligent de mon point de vue que le pape Ratzinger, Benoît XVI. Mais il n'a pas ce style professoral qui montre ce qu'il sait et qui de très haut essaye de simplifier les choses pour que les gens comprennent. Il commence d'en bas. Il fait des formules qui semblent hyper simples, mais c'est pas aussi simple que ça. Le jésuite, c'est aussi quelqu'un qui va à la frontière, ça c'est un mot-clé pour lui. Et alors là, on a vraiment un pape de la frontière. Non seulement il vient de loin, mais il veut aussi aller loin. Et un des signes de son intelligence est qu'il n'a pas tout changé dès le début, même si on devine déjà qu'il y a des plans, qu'il a des idées claires, mais qu'il procède à petits pas. Par exemple, avec ce thème de la famille et du mariage, il ne crie pas « manif pour tous », il n'envoie pas des télégrammes de soutien à des marches pour la vie, mais il fait encore semblant comme si ce n'était pas aussi important, la doctrine, etc., comme si on pouvait en discuter, etc. Bien sûr qu'on ne peut pas discuter de la doctrine de l'Église, mais il ne fait pas sa réforme d'un jour à l'autre. Il veut ramener le plus grand nombre de personnes. Il ne veut pas cette étiquette de « ah voilà, ça, c'est typique, c'est un conservateur qui est pour la vie, point ». Il veut être ouvert pour tous. Et pour ça, il commence un peu à la frontière, il parle aux gens de la frontière. Après, il clarifie aussi les points qui importent à l'intérieur de l'Église. Mais pour être intéressant aussi dehors, il ne faut pas toujours répéter ce qu'on attend de toi déjà.
Mais donc, pour ceux qui attendent des changements, il pourrait y avoir de grosses désillusions, et notamment lors du synode concernant la famille.
Oui, le danger est là. Et pour ça, il s'est vraiment pris du temps. Deux synodes sur le même thème qui s'en suivent à la distance d'une année. C'est quand même un long chemin. Et donc, pendant ce chemin, apparemment, il veut observer qu'est-ce qui se passe, qui prend la parole, quels sont les courants, pour ne pas laisser quelqu'un derrière, si possible. Le temps joue pour lui. Lui, il joue avec le temps, en ça.
Certains vaticanistes évoquent une révolution au sein du Vatican, au sein de l'Église. Peut-on véritablement parler de révolution?
C'est la révolution tranquille. C'est la petite révolution, pas à pas, la révolution qui se cache. C'est une révolution comme chaque nouveau pontificat est une révolution, ou un pas en avant.
Pour conclure, parmi les grandes réformes qu'il a entreprises, quelle est la plus importante?
C'est peut-être surprenant, mais à mon avis, ce sont les messes à Santa Marta, les messes du matin, où il apparaît comme le pasteur quotidien. Donne-nous notre petite homélie spontanée du pape quotidienne. Ça, c'est une révolution de tous les jours. Cette parole du pape, pas contrôlée, s'insinue dans la machinerie du Vatican tous les jours. Ça, pour moi, c'est le petit dent qui mange à l'intérieur du système qui gratte tous les jours.
Stefan Van Kempis, notre confrère du programme Germanophone, il était au micro d'Hélène Détombe. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'occasion de ce premier anniversaire de l'élection du pape François. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes nos interviews et nos informations sur notre site internet www.radiovaticana.va. Avant de se quitter, cette nouvelle en provenance du Portugal, touchée par l'émotion. Mercredi soir, en effet, le patriarche émérite de Lisbonne, le cardinal José da Cruz Policarpo, s'est éteint à l'âge de 78 ans. Le premier ministre portugais, Pedro Passos Coelho, lui a rendu hommage en parlant d'un homme de tolérance et de foi au service de la communauté de l'Église catholique. José da Cruz Policarpo a été patriarche de Lisbonne durant 15 ans, de 1998 à 2013, et a été créé cardinal en 2001 par Jean-Paul II. Né le 26 février 1936 à Alvorninha, au centre du Portugal, il avait été ordonné prêtre le 15 août 1961. Tout au long de sa carrière, il a été un promoteur de la formation des jeunes et du dialogue entre les cultures. Ses années d'études en France au milieu des années 60 à Strasbourg l'avaient particulièrement marqué dans ces deux domaines. Le pape a envoyé un télégramme de condoléances à l'actuel archevêque de Lisbonne, Monsieur Clemente, exprimant sa douleur et rappelant l'homme passionné par la recherche de la vérité qu'était le cardinal Policarpo. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.